Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pendant le temps de l'Avent, notre liturgie s'appuie sur trois grands personnages, Isaïe, Jean-Baptiste et Marie. Et aujourd'hui, nous célébrons justement une des grandes fêtes de la Vierge Marie, sa présentation au temple. L'Avent, comme le rappelle souvent le prophète Isaïe, est une période de préparation à l'avènement du Christ sur terre, à son incarnation en nous. Et la vie de la Vierge Marie est aussi marquée par une longue préparation avant de mettre au monde le Fils de Dieu. Avec Marie, écrivait Monseigneur Jean, le véritable temple de Dieu entre dans le temple de Jérusalem. Le fait que Marie, à 3 ans, ait été présentée au temple de Jérusalem pour y vivre est à considérer plus comme un symbole que comme un fait historique. Néanmoins, il nous donne 2 aspects principaux de Marie. D'abord, sa sainteté. Le saint, c'est celui qui se sépare de tous. De tout ce qui n'est pas Dieu, celui qui se sépare de tout ce qui fait écran entre lui et Dieu. Et la petite enfant, séparée du monde et introduite au temple pour y demeurer, évoque l'idée d'une vie consacrée à Dieu, une vie d'intimité avec Dieu. Et où pouvait-on être plus proche de Dieu que dans le temple, dans le Saint des Saints? Le 2e aspect est la comparaison entre le temple de pierre et le temple vivant. Marie a porté et protégé le Dieu-homme dans son sein. Elle est ainsi devenue un temple plus sacré que le sanctuaire de Jérusalem. Si le temple de pierre, ou avant la tente dans le désert, était l'instrument donné par Dieu à son peuple pour le guider, pour lui rappeler sans cesse que Dieu est avec lui, Marie, comme temple vivant, devient l'instrument de l'incarnation du Fils de Dieu. Et saint Paul nous dit dans l'épître d'aujourd'hui la grandeur qu'avait le temple de pierre, mais combien plus grand, plus parfait est devenu le corps de Marie comme temple du Christ. Et il rappellera encore dans son épître aux Corinthiens que c'est aussi une vérité pour chacun d'entre nous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Marie monte les marches du temple. Progressivement, elle s'élève vers le Seigneur, sans se retourner, sans esprit de retour. Elle se livre ainsi comme l'instrument de l'œuvre divine pour l'humanité. Elle ne calcule pas. Et plus tard, lorsque l'ange Gabriel viendra lui annoncer la nouvelle de sa maternité prochaine, elle répond « Oui, je suis la servante du Seigneur ». Sa détermination, son acceptation est entière et complète. Marie est l'exemple parfait de celle qui a répondu corps et âme à l'appel de Dieu. Nous pourrions nous étonner d'entendre comme évangile du jour le Magnificat, qui semblerait mieux placé pour le jour de la fête de la Visitation. Et pourtant, ce chant est un chant de louange juste qui devait habiter Marie depuis son enfance. Son âme magnifie le Seigneur. Par son adoration, elle met Dieu comme la force de vie de son cœur. Et le mot « mon âme » comprend toutes les émotions comme femme et comme future mère qui en ce moment font battre le cœur de Marie. Et son esprit tressaillit de joie. Ce tressaillement se rapporte à l'émotion indicible qui a saisi Marie lorsque s'est accompli en elle le don d'amour qui doit sauver le monde. Elle place le siège de cette émotion supérieure dans l'esprit, dans le pneuma. Elle montre ainsi que ces deux termes, âme et esprit, ne sont pas des synonymes. L'âme qui habite en tout homme possède deux liens. Le corps, d'un côté, par lequel elle communique avec le monde terrestre, et l'esprit, par lequel elle est en relation avec le monde divin. Aussi est-ce dans son esprit que Marie a tressailli au contact du souffle de l'Esprit de Dieu. Alors pourquoi cette joie de Marie? Parce qu'elle le dit, Dieu a jeté les yeux sur elle, sur son humilité. Bien que descendante de David, elle n'a pas un statut de fille de sang royal. Elle est la fiancée d'un simple artisan, un simple menuisier. Mais cette fiancée, dès son plus jeune âge, s'est donnée, s'est consacrée à Dieu. Puis, elle énumère les trois perfections divines qui viennent d'éclater en sa faveur. Il a fait en moi de grandes choses, celui qui est puissant, son nom est saint, sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. D'abord, la toute-puissance de Dieu. Il a créé le premier homme par sa parole et il donne à Marie le soin d'apporter le salut au monde en devenant la mère de son fils. Ensuite, la sainteté de son nom. Dieu est au-dessus de toute imperfection, de toute souillure. Et enfin, la miséricorde. Marie reconnaît la vision miséricordieuse de l'être divin en choisissant sa personne comme instrument de salut pour l'humanité. Mais cette miséricorde donnée à travers elle, elle l'est aussi à tous ceux qui craignent Dieu, c'est-à-dire pas à ceux qui vivent dans la peur de Dieu, mais dans l'émerveillement de sa grandeur, de son amour. Puis elle énonce comment Dieu agit pour exprimer sa miséricorde envers les craignants Dieu. Il déploie la force de son bras. Il disperse ceux qui ont dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il dépose les puissants de leur trône. Il élève les petits. Il rassasie de biens les affamés. Il renvoie les riches les mains vides. Il prend sous sa protection Israël, son serviteur. On pourrait résumer ces affirmations en disant que Dieu met à bas les grandeurs humaines d'orgueil, de puissance et de gloire, pour privilégier les valeurs d'humilité, de charité et de sainteté. C'est dans ces valeurs qu'ont vécu Joachim et Anne, Zacharie et Élisabeth, et elle-même la Vierge Marie, et tous ceux qui essayent de vivre dans l'émerveillement devant Dieu. Nous sommes nous aussi invités à devenir des maris, des mères de Dieu, que nous soyons hommes ou femmes, et accueillir dans l'émerveillement le Christ en nous, et vivre de et dans son esprit. À lui soit honneur, gloire et louange au siècle des siècles. Amen.